Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Éclairage aujourd'hui se propose d'être au carrefour de l'actualité à travers l'œuvre d'un grand personnage, d'un grand écrivain. L'actualité américaine, tout d'abord, puisque nous sortons des élections présidentielles, mais aussi l'actualité française, marquée par la brûlante question de la laïcité. Nous anticiperons d'ailleurs la commémoration de la séparation de l'Église et de l'État, dont nous allons beaucoup parler à l'Académie des sciences morales et politiques l'année prochaine. Alors, quelle est l'œuvre, quel est cet homme, quel est cet écrivain qui se situe à ce carrefour de l'actualité française et américaine? Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville n'a pas 30 ans quand il traverse l'Atlantique en 1831 pour explorer les États-Unis. De ce voyage, il écrira une œuvre majeure, reconnue que depuis malheureusement fort peu de temps, il s'agit du livre « De la démocratie en Amérique ». Tocqueville appartient au 19e siècle et salue l'émergence et le développement de la démocratie qui l'accompagne, mais son œuvre se distingue par l'énumération des dangers qui menacent le régime politique. Non pas des dangers extérieurs, mais bien des dangers intérieurs propres donc à sa nature. Qui fut donc Alexis de Tocqueville? Quelle analyse fait-il de la démocratie? Quel rôle peut jouer la religion dans un État démocrate? Autant de questions que notre invité Agnès Antoine va aborder pour nous. Agnès Antoine, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion aux éditions Fayard. C'est un livre qui est paru l'année dernière. Alors, ce livre vient d'être récompensé par un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le prix Gegner, qui est un prix annuel destiné, je cite, à un écrivain philosophe qui sera signalé par des travaux qui peuvent contribuer au progrès de la science philosophique. Alors, progrès de la science philosophique, mais j'allais dire progrès aussi de l'aspect religieux dans ce vaste domaine qu'est la philosophie, car votre livre est un livre porté vers la pensée religieuse de Tocqueville. Et ça sera ma première question. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment en êtes-vous arrivé à ce sujet, ma foi, qui est mal connu de l'œuvre de Tocqueville?
Eh bien, si vous voulez, j'ai commencé par travailler sur beaucoup d'auteurs du 19e siècle, du premier 19e siècle en particulier, qui sont des personnes qui ont expérimenté. Alors, Tocqueville, dans cette affaire-là, parmi tous ces écrivains, est peut-être celui qui a le regard le plus perçant sur ce qui est en train de naître, dans la mesure où il appartient par sa naissance au milieu aristocratique. Donc il connaît de l'intérieur, en quelque sorte, l'ancienne société, même si, il n'est pas directement de la génération qui a connu la Révolution française et donc qui est passée de l'ordre ancien à un ordre différent, fondé sur l'égalité. Mais par sa famille, par son milieu, il connaît en quelque sorte le principe même de fonctionnement de l'ancienne société, et il peut mesurer l'extraordinaire nouveauté de ce qui est en train de se mettre en place. Et il a eu ce regard comparatif, particulièrement important pour nous aujourd'hui, puisque finalement sa clé de lecture de la société démocratique va être dans ce travail de comparaison avec l'ancienne société, et donc dans une sorte de balancement permanent de l'analyse, avec un regard donc qui va caractériser la société démocratique par le principe de l'égalité et de l'égalité des conditions, et puis finalement toutes les sociétés qui ont précédé la démocratie moderne à partir du principe d'inégalité, le principe de hiérarchie qui caractérise les anciennes sociétés. Et alors Tocqueville va non seulement essayer de décrire ce qui est en train de naître, mais aussi il va être d'emblée intéressé finalement par les risques peut-être de la nouvelle condition démocratique. Et il a avoué lui-même qu'au fond, souligner les avantages de la démocratie était une chose, mais peut-être s'interroger sur les failles possibles et les risques qui pouvaient se redessiner pour la liberté humaine, y compris dans un régime de liberté politique tout à fait inédit dans l'histoire humaine. En revanche, revenir avec quelque chose, je ne sais pas encore très bien quoi, un ouvrage peut-être peut réussir à faire parler de soi et à accéder à une carrière politique. Hein, au fond, c'est ce qu'il souhaite au départ. Mmh. Et au moment où, dont on parle, 1830, il n'a pas l'âge d'éligibilité pour devenir député, alors que à son retour, quand il publiera La démocratie en Amérique et qu'il y aura à ce moment-là, il aura toute une notoriété presque immédiate, il va pouvoir, dans les années qui suivent, accéder à cette carrière politique, précisément.
Mmh. Éclairage reçoit Agnès Antoine, auteur du livre « L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion » paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons, Agnès Antoine, si vous le voulez bien, après une première pause.
Canal Académie.
Et à s'intéresser plutôt à ce second volume et à cette opposition, à cette lecture entre les sociétés égalitaires et les sociétés fondées sur la hiérarchie. À partir de lui, beaucoup de philosophes, Claude Lefort, Marcel Gauchet, Pierre Manant, autour de l'historien François Furet, très ouvert lui-même à la philosophie, ont travaillé cet aspect de l'œuvre de Tocqueville. Et vraiment, cette réflexion sur la condition démocratique. Et puis, ces dernières années, alors bien sûr, la lecture de François Furet sur la Révolution française aussi, enfin, côté historien, parmi donc une sorte de remise en cause de toute une vulgate des travaux français sur la Révolution française. Bon, et François Furet s'est appuyé, évidemment, beaucoup sur l'œuvre de Tocqueville. Et puis alors, plus récemment... une sorte d'intérêt pour ce qu'on pourrait appeler Tocqueville philosophe. Moi-même, j'ai pris cette option d'essayer de montrer que il y a vraiment une dimension philosophique à cet homme, une cohérence philosophique, et qu'il mérite de figurer dans le canon de la philosophie. Et je pense que y a beaucoup, enfin, c'est un peu dans l'air de notre temps d'aller dans cette direction-là aujourd'hui. Ouais. Oui.
Il apparaît vraiment, et d'ailleurs c'est la qualité de votre livre, Jean Ménard de l'Académie des sciences morales et politiques le soulignait, il y a une culture pluridisciplinaire chez Tocqueville, et dans votre livre, vous touchez autant à l'histoire. Bien sûr, vous avez la maîtresse philosophie, mais vous touchez autant à l'histoire qu'à la critique littéraire, qu'à la pensée politique et à la sociologie. Est-ce qu'au fond, c'est ce qui rend Tocqueville inclassable ?
Tocqueville écrit à une époque où les disciplines déjà ne sont pas autant séparées qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le qualifier de moraliste, qui est une expression ainsi. Tous ces points de vue sont certes très intéressants, mais au fond, qu'est-ce que ça donne quand on met tout ça ensemble? Et qu'est-ce que ça nous dit au-delà?
C'est-à-dire que vous avez, si vous me permettez l'expression, une vision plus globale qu'auraient certains auteurs.
En tout cas, ça a été mon point de vue.
Alors, quelle est la pensée de Tocqueville sur la démocratie, Agnès Antoine ? C'est ce que je vous propose de voir après une seconde pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, l'émission Éclairage, et je reçois Agnès Antoine, auteure du livre L'impensé de la démocratie, primé cette année à l'Académie des sciences morales et politiques, paru aux éditions Fayard. Alors, nous en venons, si vous le voulez bien, Agnès Antoine, à la nature, à la pensée politique de Tocqueville. Tocqueville dit que dans la démocratie, il y a un fait générateur, c'est l'égalité des conditions, et c'est un mouvement que l'on ne peut arrêter. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Certains, d'ailleurs, voudraient l'arrêter. Et Tocqueville va essayer de montrer que c'est un mouvement qui vient de loin dans l'histoire. Il va resituer l'idée d'égalité dans son lien avec le christianisme. Et puis, évoquer cette avancée curieuse de cette idée qui avançait fort lentement, mais de façon presque inéluctable. Il va même lire cette histoire de l'égalité comme un fait providentiel, quelque chose de l'ordre de la providence, qui en a à la fois le caractère de nécessité et d'inéluctabilité. Ceci pour montrer qu'on ne peut arrêter ce mouvement. Alors, pourquoi on ne peut arrêter ce mouvement ? C'est un mouvement qui conduit finalement la conscience humaine dans un mode finalement de représentation de l'autre qu'elle ignorait antérieurement et qui conduit finalement à considérer l'autre homme comme un semblable. Et Tocqueville va montrer que pour que cette idée finalement prenne force, et c'est la raison pour laquelle elle a mis tant de temps à, en quelque sorte, prendre force, il faut qu'elle prenne chair, en quelque sorte. Et c'est l'égalité des conditions qui inscrit, en quelque sorte, dans le social, d'abord, cette idée, avant même qu'elle prenne son développement dans d'autres sphères de l'existence humaine. Égalité des conditions, c'est-à-dire abolition de toute forme de privilège, de distinction entre les hommes, de classification, dit encore Tocqueville, j'aime bien cette expression, elle est très parlante, toute forme de classification entre les hommes disparaît, ou du moins se relativise, du même coup va surgir un mode d'être ensemble, une forme de représentation de soi aussi, différente des époques passées. Alors c'est le point de départ.
Oui, alors si vous voulez bien, Agnès Antoine, on va avancer parce que malheureusement le temps nous fait défaut. Vous écrivez « La société démocratique, quant à elle, a plutôt tendance à ne voir que ses propres qualités. Et c'est en général le problème des amis de la démocratie que de n'avoir pas suffisamment conscience des menaces contenues dans la détermination démocratique. » Donc il y a cette détermination démocratique. Et la grande qualité de l'œuvre de Tocqueville, c'est de montrer les dangers, les pièges dans lesquels la démocratie peut tomber. Quels sont ces pièges, en quelques mots ?
Alors, c'est vrai que c'est un grand paradoxe. C'est un régime, finalement, de liberté tout à fait inédit dans l'histoire humaine. Et en même temps, Tocqueville va essayer de montrer qu'il peut se produire finalement d'autres formes d'esclavage qu'on ne soupçonne pas. Et il va essayer de les mettre en avant. Alors, quels sont ces risques
propres? Je me permets de vous couper. Vous parlez d'esclavage et page 310 de votre livre, vous dites quelque chose qui est très fort. La théorisation scientifique du racisme est, estime Tocqueville, un produit de la société démocratique. Bien que cette doctrine restaure l'inégalité entre les hommes, elle satisfait la tendance matérialiste des esprits et des cœurs propres à la société égalitaire. Ça, c'est un des pièges dans lesquels elle peut tomber, la démocratie.
Oui, parce que Tocqueville va en fait caractériser l'homme démocratique à travers trois traits. Alors caractériser, je dirais, sur le plan de ces fameux risques qu'on évoque. Le premier, c'est l'individualisme, avec une analyse très, très, très intéressante et très importante, je pense, encore aujourd'hui, pour comprendre nos sociétés. À savoir que Tocqueville ne porte pas un jugement moralisateur sur le fait que les individus modernes ont des comportements individualistes, mais essaye de caractériser un trait qui va être tout à fait propre à cette... Alors, il partage avec beaucoup de ses contemporains l'idée que la guerre va disparaître,
la fin de la guerre,
que c'est un concept archaïque, que finalement, d'une certaine façon, le commerce instaure un mode d'échange plus doux, plus pacifique. Mais il voit, à la différence de certains libéraux de l'époque qui voient effectivement dans le commerce une sorte de porte de sortie de la guerre, un risque également dans cette société commerciale et industrielle qui, finalement, risque de river les hommes à cette dimension strictement matérielle et leur faire perdre une part de leur humanité, une part de leur vraie liberté, et donc engendrer des risques tout à fait importants par rapport à ce qu'il estime être, du ressort proprement de l'être humain et aussi de la participation politique qu'offre la démocratie, précisément, aux hommes à partir du moment où elle instaure cette égale liberté.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, aux remèdes, parce qu'il y a fort heureusement des remèdes. Vous vous attardez sur l'instruction, le rôle de l'instruction, sur le rôle de la commune, sur le rôle des associations. Tout cela, ce sont des choses qu'il voit aux États-Unis. Mais en dernière analyse, vous mettez l'aspect religieux en avant. C'est le cœur de votre livre. Quel est le rôle de la religion en tant que contrepoids, justement, aux dérives de la démocratie?
L'intérêt de l'analyse de Tocqueville, c'est que c'est une analyse non théologique. C'est une analyse qui va se situer sur le registre sociologique d'abord, et anthropologique, on pourrait dire. Et Tocqueville essaye de réfléchir finalement au rôle que peut avoir la religion dans l'espace démocratique, et notamment par rapport à cette question de la signalement, ce que le sociologue Émile Poula aujourd'hui appelait la guerre des deux France, et de sortir de cette guerre des deux France et de réfléchir donc à la place que pourrait tenir la religion. Donc il va adopter, je dirais, le point de vue inverse de celui qui est le plus répandu, à la fois chez les penseurs de son temps, enfin en partie... disons chez les plus démocrates, et puis de façon générale, on pourrait dire chez les philosophes modernes, hein, comme quoi finalement il y aurait une antinomie entre religion et modernité, ou entre religion et démocratie.
C'est ce qui fait l'actualité de sa pensée, et c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Canal Académie.
Thank you.
Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Éclairage reçoit Agnès Antoine, philosophe, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur du livre « L'impensé de la démocratie » paru chez Fayard, un livre primé cette année par l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous évoquons un des aspects majeurs de la pensée tocquevillienne qui est le fait religieux. Il y a chez Tocqueville, enfin Tocqueville pense qu'il y a une naturalité du sentiment religieux. On peut le lier à Aristote sur ce point ?
Alors Tocqueville pense effectivement qu'il y a une naturalité du sentiment religieux. Il part en fait d'une autre naturalité, on pourrait dire, qui serait celle du sentiment de finitude. Hein. Tous les hommes, estime-t-il, expérimentent leur finitude, le fait d'être un être fini, et on se désire de dépasser cette limite. Et donc, on sont habités par un désir qu'on peut appeler différemment, désir d'infini, désir d'immortalité, hein, puisque la mort, l'idée de la mort est quand même ce qui figure le mieux cette limite. Et donc, ils sont préoccupés par cette quête de dépassement. Et Tocqueville va caractériser ce désir en l'appelant sentiment ou instinct religieux.
Mais est-ce qu'il n'a pas peur de se retrouver en face d'un mur qui serait l'indifférence religieuse ? Est-ce qu'il a pensé à cette indifférence religieuse ? D'ailleurs, il n'est pas le seul à y penser, je crois. C'est l'amener à y penser également.
Tout à fait. En fait, Tocqueville développe certains passages très, très intéressants sur, effectivement, l'indifférence démocratique et comment... c'est quelque chose qui advient en quelque sorte sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que l'homme qui naît dans une société démocratique va être en quelque sorte influencé par le cadre intellectuel et social dans lequel il est et va être, s'il avait des croyances, conduit presque sans s'en apercevoir vers une forme d'indifférence. Et s'il n'avait pas de croyance, vivre en quelque sorte dans cette indifférence. Alors Tocqueville est sensibilisé à cette question par le grand essai sur l'indifférence de Lamennais, qui a été un ouvrage qui a eu une très très grande influence dans le premier 19e siècle. Mais on voit qu'il l'aborde de façon différente, c'est-à-dire que Lamennais est un théologien, est un apologète aussi qui fait un ouvrage polémique pour pas dans le sens d'une domination du politique sur le religieux, au contraire, puisque tous les avantages qu'il va souligner les avantages de la religion qu'il va souligner à l'égard de la démocratie, ils ne sont possibles, ils ne fonctionnent à ses yeux que lorsque précisément religion et politique sont séparés sur le plan à la fois institutionnel et juridique. Donc c'est le paradoxe de sa pensée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une très claire séparation sur ce plan-là, juridique et institutionnel, pour que quelque chose de l'ordre de la complémentarité, de la fécondité réciproque puisse s'instaurer entre ces deux dimensions. Il dit ça à un moment où on est dans un régime de concordat.
Et d'ailleurs, vous le rapprochez de Portalis, qui lui aussi était un peu à cheval entre deux mondes, entre l'ancien régime et la démocratie, l'empire, etc.
Oui, mais j'essaie de montrer que Portalis a un point de vue plus utilitaire, précisément, d'utilisation du religieux par la sphère politique.
Vous avez une très belle expression, vous dites qu'il est davantage, Tocqueville demeure plus augustinien que machiavélien.
Oui, alors c'est mon interprétation, parce qu'il faut bien vous dire que cette question de la pensée de Tocqueville sur la religion a donné lieu soit à une absence totale de commentaires, ce qui était un moyen d'évacuer cette partie de la pensée de Tocqueville, soit à des commentaires très contrastés. Où justement certains commentateurs soupçonnent Tocqueville d'avoir un point de vue machiavélien. Donc moi, mon interprétation, effectivement, a été de prendre plus au sérieux, en quelque sorte, cette pensée de Tocqueville, en m'appuyant d'ailleurs sur ce que Tocqueville écrit lui-même dans sa correspondance ou dans divers écrits privés, c'est sur cette grande préoccupation très forte chez lui, qui, je pense, est vraiment un peu le fil rouge de son œuvre, de vouloir réconcilier ce qu'il appelle liberté et religion.
Il a, vous citez pas page 200
des balancements pascaliens, toujours entre ce que vous évoquiez, c'est entre l'ange et la bête. Et donc j'ai tenu à marquer cela, toujours pour l'inscrire dans cette tradition des moralistes, et donc de ces penseurs qui ont vraiment pris à bras le corps la question de la condition humaine, de la question de la nature humaine, de la liberté de l'homme, du destin de l'humanité aussi.
Oui, il est en quête d'un humanisme.
J'ai employé ce mot, Tocqueville ne l'emploie pas, mais je pense que c'est un mot qui qualifie bien sa pensée.
Oui.
Alors, vous évoquiez Augustin, et moi j'évoquais Rousseau, et on voit très bien, alors Tocqueville lui ne le voyait pas, parce qu'il ne cherche pas à faire l'histoire de la philosophie, mais quand on se penche sur son œuvre et qu'on voit cette présence de Pascal, mais aussi ce dialogue très profond avec Rousseau, quitte à s'éloigner de lui, mais Tocqueville est très très imprégné de l'anthropologie rousseauiste. J'y vois pour ma part une sorte de lignée, de filiation augustinienne, non avouée d'ailleurs par Rousseau, mais c'est une sorte de présence, une forme de lecture du monde, de questionnement qui sous-tend la pensée de ces auteurs.
Il nous reste que très peu de temps, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que Tocqueville est un fataliste ? Parce que on a évoqué de la démocratie en Amérique. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, il est plus pessimiste, non ?
Alors, il y a toujours plusieurs lectures de Tocqueville. C'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Mais bon, certains le tirent quelquefois dans ce sens pessimiste. Et c'est assez facile. On peut toujours aller chercher des phrases de Tocqueville, effectivement, où il s'inquiète... Avec plus qu'angoisse de la future destinée de l'humanité. Et en même temps, il y a des phrases tout à fait claires où il dit qu'au fond, s'il n'était pas habité par une très profonde espérance, il n'aurait jamais pris la plume.
Et cette espérance est chrétienne ?
Alors, ça serait certainement aller trop vite que de mettre cette étiquette directement sur la pensée de Tocqueville. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été très marqué par, on pourrait dire, l'anthropologie, la morale chrétienne, qui se pose lui-même beaucoup de questions et qui a été très très travaillé par la question religieuse. Et notamment, sa réflexion est ancrée dans un questionnement par rapport au christianisme, précisément. J'ai écrit dans mon livre qu'il est un peu sur un seuil. C'est comme si c'était un lieu autour duquel il n'avait cessé de tourner. Il a été éduqué, il a une éducation catholique, on pourrait dire. Il a perdu la foi, jeune homme, en lisant les philosophes des Lumières. Et puis ensuite, on voit qu'il y a toute une quête existentielle avec un désir de retrouver cette foi. Et cette foi chrétienne, et puis une difficulté par rapport à, on pourrait dire, la dogmatique, la manière dont s'exprime la foi chrétienne de son temps, dans une certaine dogmatique contre laquelle il bute. Mmh. On pourrait dire qu'il n'a jamais retrouvé, au sens proprement religieux du terme, cette foi. Voilà, mais il y a un univers de pensée qui est coloré effectivement par le christianisme. Oui.
Eh bien, Agnès-Antoine, je vous remercie. C'est sur ce seuil que nous allons laisser nos auditeurs et nous les incitons vivement à aller vers l'œuvre de Tocqueville, donc de la démocratie en Amérique que l'on trouve très facilement en livre de poche, et l'Ancien Régime et la Révolution. Je rappelle à nos auditeurs, toujours, que vous êtes l'auteur du livre « L'impensé de la démocratie, Tocqueville, la citoyenneté et la religion » paru aux éditions Fayard en 2003, un ouvrage qui a reçu le prix Gegner, un prix réservé aux écrivains philosophes. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
écouter Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.